aujourd'hui pour nous conduire dans ce temps de prédication, à l'écoute de la parole de Dieu, j'aimerais lire un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer le message dans leur ville. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander: « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncé aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » Jusqu'ici notre lecture. C'est l'histoire d'une question. Une question posée à Jésus. Et j'aimerais prendre le temps de regarder un peu la question, d'étudier la question. D'abord, quel contexte? Qui pose la question? Quelle est cette question? Et surtout, quelle est la réponse? Qui pose la question? Dans quel contexte cette question est-elle posée? On est à un temps du ministère de Jésus où ce ministère commence à prendre de l'ampleur. Jésus commence à être connu, il y a des foules qui le suivent, et les disciples commencent à être suffisamment formés pour pouvoir être envoyés et faire des choses eux-mêmes. Et ce passage dans l'évangile de Matthieu, c'est vraiment une articulation dans l'évangile de Matthieu, où les disciples sont envoyés, on en avait parlé lors d'une prédication précédente, comme dans un stage pratique, hein, un stage où ils vont eux-mêmes annoncer la bonne nouvelle. Donc, voilà, ce ministère prend de l'ampleur et les gens qui observent ce que fait Jésus peuvent même être interpellés de ce qu'il n'y a plus que Jésus qui va dans les différentes villes et qui fait des miracles, mais ses disciples également. Ça pose des questions. Les gens se demandent qui est Jésus qui fait tant de choses, et non pas lui-même, mais aussi ses disciples. D'où vient-il ? De quelle autorité fait-il cela? En un mot, comment est-ce qu'il fait tout ça? Et là, la question qu'on a dans notre passage, elle est un peu identique, mais elle vient de quelqu'un qui peut nous surprendre. Parce qu'elle vient de Jean. Alors, Jean, il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament. On connaît bien Jean parce qu'il y a un évangile qui s'appelle Jean. Hein. C'était un des disciples qui était avec Jésus. Mais ce n'est pas de ce Jean-là qu'il s'agit. Il s'agit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un prophète qui est venu juste avant Jésus. Ils ont été contemporains. Et Jésus dit qu'il n'y a pas eu d'homme plus grand que Jean-Baptiste. Donc ce n'est pas n'importe quel prophète. Le rôle de Jean-Baptiste, c'est de préparer le chemin pour Jésus, préparer le chemin pour celui qui arrive, pour celui qui suit. Et Jean-Baptiste en avait pleinement conscience, et quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il l'a reconnu. On en a témoignage dans l'évangile. Quand il a vu Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu, voici, c'est lui. Donc Jean-Baptiste a un ministère très particulier, celui d'annoncer la venue du Messie, d'annoncer la venue de Jésus. Et c'est bizarre de le voir ainsi douter. Parce que pour moi, cette question, c'est quand même l'expression d'un doute. C'est bizarre et en même temps, ça peut se comprendre au vu des circonstances. On a lu dans notre passage qu'il est en prison. En prison, d'autres évangiles donnent des détails. Il est en prison parce qu'il a dit quelque chose qui déplaît au roi. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour Jésus. Il est venu dire aux gens, changez de comportement, comportez-vous bien pour accueillir le Seigneur qui vient. Et il l'a dit au roi également. Et au-delà des généralités, il a dit au roi, comporte-toi bien, et la femme de ton beau-frère que tu as pris pour épouse, ce n'est pas bien se comporter. Ça, ça n'a pas plu au roi, qu'il a mis en prison. Et la suite de l'histoire, on la connaît, puisque pour des raisons assez légères, le roi finalement va finir par le décapiter, le faire décapiter. Et je pense que Jean-Baptiste n'est pas dupe. Il sait que ça sent pas bon et que sa fin est proche. J'imagine que dans sa prison, il a des doutes. Seigneur, tu m'as demandé d'annoncer la venue du Messie. Et qu'est-ce qui change ? Est-ce que les gens changent de comportement ? Nous voilà en prison pour des bêtises. Et donc, il se tourne à Jésus pour lui demander, est-ce que c'est bien toi ? Est-ce que c'est bien toi, celui qu'on attend ? Ou est-ce que je me suis trompé ? C'est un peu un message codé, cette question. Est-ce toi ou est-ce un autre ? Je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont assisté à la scène ont bien compris ce qu'il disait. Mais Jean, comme Jésus, savait de quoi il parlait. Il parlait de celui qui doit venir. Celui qui doit venir. Si, quand vous lisez la Bible, et que vous lisez en particulier l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, avant la venue de Jésus, il y a un fil rouge qui est l'annonce de Jésus. L'Ancien Testament constate combien le monde va mal, constate que les systèmes qui peuvent être mis en place à l'homme, par l'homme, même avec l'aide de Dieu, ne permettent pas de redresser les choses, de redresser ce qui a été cassé avec le péché. Et il y a ce fil rouge qui dit qu'un jour, quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra arranger les choses. Ce sera un leader, ce sera un roi dans la lignée de David, ce sera un roi mieux que David, le grand roi. À cette époque, au premier siècle, à l'époque de Jésus, l'attente de ce roi est particulièrement forte. Le pays est sous occupation romaine. C'est compliqué. Et on lit beaucoup ces textes qui parlent de l'arrivée du roi et on l'attend. Mais on n'attend pas forcément le bon. On attend le chef militaire qui va débarrasser des Romains et qui va avancer. Mais Jean, comme Jésus, savent que celui qui vient, ce n'est pas que ça. C'est aussi le serviteur. Et c'est aussi celui qui va élargir l'élection au monde entier. Ce n'est pas seulement celui qui va rétablir Israël. C'est celui grâce à qui la promesse faite à Abraham va se réaliser et que toutes les nations seront bénies. Est-ce toi, Jésus ? Est-ce toi celui-ci? Est-ce toi celui que nous attendons? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Je note au passage que servir Dieu, ce n'est pas la garantie d'échapper à tous les problèmes. Et là, avec Jean-Baptiste, on a quand même un serviteur plus. Quelqu'un de dévoué, qui a consacré sa vie, qui a été consacré dès avant sa naissance. La Bible ne nous rapporte pas de fautes, de faux pas qu'il ait fait. Il n'était pas parfait, mais quand même, dans la fidélité, il se pose là. Et là, l'épreuve qu'il traverse, ce n'est pas une petite épreuve de rien du tout. Alors qu'il a parlé avec justice, le voilà mis en prison et se dirigeant vers une mort injuste. Être serviteur, ce n'est pas s'affranchir des problèmes. Il est à une période difficile de sa vie, une période de détresse, et là, il a besoin d'assurance. Et quelle est la réponse de Jésus? La réponse, elle est un peu longue, mais elle pourrait tenir en une phrase ce qu'il dit au début. La réponse de Jésus, c'est « Écoute et regarde ». Écoute et regarde. En fait, il ne dit pas ça directement à Jean, puisque Jean est en prison. Il dit à ceux qu'il a envoyés, allez lui dire ce que vous avez vu et entendu. Écoute et regarde. Plus que des grands discours, plus qu'une argumentation solide, un truc infaillible, un rouleau compresseur, regarde. Regarde ce qui est fait. Regarde ce qui est devant toi. Regarde les signes. Regarde les faits. C'est la meilleure chose qu'on puisse voir. C'est la meilleure chose qui puisse te convaincre. Regarde. Mais regarde les bonnes choses. Ne te trompe pas sur ce que tu regardes. Parce que dans sa prison, Jean avait l'horizon un peu masqué par les barreaux. Et Jésus lui dit ce qu'il doit regarder. Les aveugles qui retrouvent la vue, les infirmes qui marchent, les lépreux qui sont purifiés, les sourds qui entendent, les morts qui se réveillent. Tout ça, ce sont des miracles dont on a témoignage dans les évangiles. Ce n'est pas des généralités que dit Jésus ici, ce sont des choses qu'il a accomplies, que Jean ou ses envoyés peuvent vérifier et peuvent voir de leurs yeux. Et également, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ne regarde pas tes barreaux, ne regarde pas ce sujet de découragement. Regarde ça. Les personnes qui sont guéries, les personnes qui sont délivrées et la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Cette bonne nouvelle qui est la possibilité d'un nouveau départ, même pour les plus pauvres, les délaissés, ceux dont on ne fait pas cas dans la société. Et je vous avais dit, la question de Jean-Baptiste, elle est un peu codée. Jésus et lui se comprennent, mais les gens autour ne les comprennent pas forcément. Et là, Jésus cite des choses qu'il a faites. Il cite des faits, mais pas seulement. Il cite aussi les prophéties qui sont accomplies. Par exemple, ce qu'a dit Ésaïe. Ésaïe, qui parle comme le serviteur, le Messie parle et qui dit « Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres. Pensez ceux qui ont le cœur brisé, proclamez aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamez pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu une année de vengeance. Consolez ceux qui sont dans le deuil. Mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. Une huile de gaieté au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille. Et on peut compléter, ça c'était Ésaïe 61, on peut compléter avec Ésaïe 35. Alors les yeux des aveugles seront dessillés, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet poussera des cris de joie. On les retrouve. Ceux que Jésus a cités comme étant les signes à regarder, on les retrouve. Ils étaient annoncés dans les prophéties. Voilà, Jean, ce que tu dois regarder. Non pas ce que toi tu attendais, mais revenir à ce que Dieu avait promis. Ces manifestations, ces guérisons, les gens qui sont guéris, qui peuvent se réjouir à nouveau, les pauvres auxquels la bonne nouvelle est annoncée. En un mot, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui arrive sur terre et qui se répand. Voilà ce qu'il faut pour remonter le moral de Jean. Et finalement, quand j'y réfléchis, je trouve que c'est tellement plus fort qu'un simple « oui, c'est moi » qu'aurait pu dire Jésus. Il a des preuves, des événements pour raviver sa foi. En même temps, j'aimerais pas passer sous silence le verset 11. Le verset 11, où Jésus élargit en disant « Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute ». Il y a des signes. Jésus les cite. Et en même temps, il y a une responsabilité pour ceux qui sont témoins de ces signes de reconnaître que Jésus est celui qui doit venir. Quelque part, pas de chance. On ne peut pas rester neutre, on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Face à ce que vous voyez, face à ces signes-là, comment est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce que vous reconnaissez en Jésus celui qui doit venir ou pas? Si vous le reconnaissez, celui qui le reconnaît, heureux est-il. Mais celui qui ne le reconnaît pas, il devra en rendre compte et expliquer pourquoi il ne l'a pas reconnu. Voilà donc cette question que pose Jean-Baptiste à Jésus et la réponse que Jésus y apporte. Dans le doute, Jean-Baptiste a une question. Et face à ce doute, Jésus lui dit « Écoute, regarde. » Et comme l'a dit Philippe, dans nos cultes visions, on aime essayer de voir comment ce que nous dit la parole de Dieu parle à là où nous en sommes en Église. Je crois que nous aussi, il peut nous arriver d'avoir des doutes. Est-ce que notre action est utile? Est-ce que ce que nous faisons est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que nous faisons contribue à ce que le royaume de Dieu avance? Ou est-ce qu'on brasse de l'air, qu'on s'agite pour rien? Est-ce qu'on a l'impression d'être comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert? Cela ne vous arrive-t-il jamais d'avoir des doutes? Quand vous avez bloqué votre temps pour servir à l'Église et que la reconnaissance que vous attendez n'est pas au rendez-vous? Quand vous priez pour un frère, pour une sœur, et que vous ne voyez pas de changement dans la situation. Quand vous témoignez auprès d'un être cher, non chrétien, et qu'il n'est pas sensible au message. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive régulièrement d'être découragé. Quand, en tant que conducteur, nous avons la conviction de l'importance d'une action ensemble et que peu de monde de la communauté est là au rendez-vous pour y participer. Quand, en tant que membre d'église, je m'investis dans une action tournée vers l'extérieur, comme on l'a fait par exemple il y a 2 semaines avec le Living Hope, et que les conversions sont peu nombreuses. Quand, en tant que prédicateur, je suis persuadé que ce que Dieu m'a mis sur le cœur a besoin d'être entendu par la communauté et que peu sont là pour recevoir. Oui, des fois, on a l'impression d'être comme Jean-Baptiste à crier dans le désert. Que faire ? Je pense déjà que nous pouvons faire comme Jean-Baptiste, poser la question. Les doutes, ne les gardons pas pour nous. Posons la question à Dieu. Tournons-nous vers Dieu, comme Jean-Baptiste s'est tourné vers Jésus. Il faut savoir dire à Dieu nos doutes. Lui, il les connaît. Il connaît le fond de notre cœur. Vous vous souvenez de ce psaume qu'on a lu, le psaume 139. Il nous connaît parfaitement. On ne peut rien lui cacher. Pourquoi lui cacher nos doutes ? Relisons les psaumes. Ce sont des modèles de netteté. Dans les psaumes s'exprime la révolte, la colère, la tristesse et le doute. Si nous avons ce modèle dans la Bible, c'est parce que Dieu écoute et c'est parce que Dieu répond. N'ayons pas peur de lui poser nos questions, de lui dire « Tu nous as promis que tu serais avec nous. Où es-tu ?» Et assurément, il nous répondra. Il nous répondra, et en même temps, je pense que sa réponse sera la même que celle qu'il a faite à Jean-Baptiste. Regarde et écoute. Regarde et écoute. Mais regarde et écoute les bonnes choses. Comme Jean-Baptiste avait ses barreaux qui lui bouchait la vue. On peut avoir les doutes qui nous bouchent la vue. Regardez et écoutez les bonnes choses. Regardez les bonnes choses. Regardez ce que fait Jésus. Je ne vous cache pas qu'il y a une difficulté. Un peu plus grande que pour celle de Jean-Baptiste. C'est que Jésus n'est plus présent parmi nous, en tout cas de façon corporelle. Jésus est monté au ciel, Jésus siège à la droite de Dieu, il reviendra, mais pour l'instant il n'est pas là. Il manque son corps, à moins que le corps du Christ. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le corps du Christ. N'est-ce pas l'expression qu'utilise Paul pour parler de l'Église ? Paul utilise cette expression « corps du Christ » pour nous inviter à être dans l'unité et dire que nous sommes morts d'un seul corps et donc nous devons travailler ensemble. Mais cette image du Christ porte aussi cette signification de visibilité. Jésus, qui est présent avec nous en esprit, est présent dans le monde à travers son corps, qui est l'Église. C'est une grande responsabilité que nous avons. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ce que Jésus montre au monde. Il a choisi de confier à l'Église ce rôle de représentant. Et quand on lit les prophéties, Ésaïe 61, que j'ai lu tout à l'heure, « Le souffle de Dieu est sur moi, m'a conféré une onction, il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, etc. etc. » La prophétie continue. Afin que ces pauvres, ces malades, on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront les lieux dévastés du passé, ils restaureront les villes désertes, dévastées de génération en génération. Nous sommes attendus. L'Église est attendue pour continuer à montrer ce que fait Dieu. Alors que faire dans les moments de doute quand nous aussi, nous sommes comme Jean? Regardons les bonnes choses, regardons ce que fait l'Église en comparant aux promesses, à ce que devrait faire l'Église. Nous avons réfléchi cette année à ce que devrait faire l'Église. Faire des disciples. Qui font des disciples? Nous avons identifié 5 mouvements: inviter, accueillir, prêcher en vue de la conversion et du baptême, enseigner et envoyer, chacun pour son ministère. Et nous le faisons en nous attendant à lui. Nous invitons, mais il rend les cœurs favorables pour que les gens répondent favorablement aux invitations. Nous accueillons, mais c'est lui qui donne faim aux gens pour qu'ils reviennent. Nous prêchons, mais c'est lui qui convainc chacun pour que nous puissions baptiser. Nous enseignons, mais c'est lui qui fait croître. Nous envoyons, mais selon les dons qu'il a donnés et que nous reconnaissons. Voilà ce qu'il faut regarder. Le ministère de l'Église et les fruits qu'elle porte. Et du coup, la question se pose à chacun. Comme avec Jésus, chacun doit se positionner. Est-ce que je reconnais là l'action de Dieu ou pas? Est-ce que je reconnais que Dieu agit à travers son Église, qu'elle porte des fruits ou pas? Exactement comme Jésus disait. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Moi, je reconnais l'action du Seigneur dans ce que fait l'Église. L'Église porte du fruit par l'accueil bienveillant qu'elle prodigue, par l'annonce de Jésus qui délivre. Nous avons eu des baptêmes cette année. Et c'est ce dont je me souviens dans les témoignages. De personnes qui ont témoigné d'avoir été accueillies, de personnes qui ont témoigné d'avoir été délivrées. Nous enseignons également et nous avons vu des personnes qui comprennent mieux ce que Dieu veut pour elles, qui veulent suivre Dieu dans la fidélité. Et nous l'avons vu en particulier dans les groupes de maison où il y a une stimulation mutuelle, une progression ensemble, pour mieux comprendre, pour rechercher la volonté de Dieu pour nous. Nous avons aussi voulu travailler à la formation, à la reconnaissance des ministères. Et des personnes s'engagent dans de nouveaux ministères, comme la louange, comme la conduite des groupes de maison, et autre chose encore. Et que dire de l'engagement financier ? L'offrande spéciale que nous avons eue il y a quelques mois était un tel encouragement. Vous savez quoi ? Je mangeais avec un ami non chrétien cette semaine. Puis, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, il m'a demandé comment ça allait, les projets de l'Église. Mais donc, je lui ai naturellement parlé de notre projet de bâtiment. Il était curieux de savoir comment le financer. Et quand j'ai pu partager avec lui ce qui se passait, il était soufflé. Il était interpellé. C'est pas normal ce qui se passe. Après, à lui de reconnaître ou non le travail du Seigneur, mais le Seigneur travaille. Et comment ne pas citer ce que nous avons fait avec le Living Hope il y a 2 semaines. Nous sommes allés chanter la louange de Dieu loin de ses murs, dans le désert où nous ne connaissions personne. Et Jésus a été annoncé. Les gens ont pris plaisir à écouter la louange de Dieu. Le monde s'est réjoui d'entendre louer le Seigneur. Et je me souviens, je garderai longtemps en tête la joie des personnes présentes place Gaillard quand elles ont entendu en français ce chant « Béni soit ton nom ». Quand nous doutons, quand tout n'est pas comme nous l'avons attendu ou espéré, regardons ce que Jésus veut nous montrer. J'aimerais également vous proposer une invitation. C'est la période estivale, la période des vacances scolaires. Je ne sais pas si c'est une pratique chez vous, mais chez nous, nos enfants sont très attachés à avoir des cahiers de vacances pour faire leurs devoirs de vacances. J'ai pour vous des devoirs de vacances. Écoute et regarde. Voilà ce à quoi Jésus invite ceux qui doutent. Écoute et regarde ce que fait l'Église. Nous sommes l'Église, on nous observe, on nous écoute. Voilà mon invitation. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions voir ? Qu'est-ce que vous voulez donner à observer ? Je l'ai dit, nous sommes le corps de Jésus, nous sommes sa partie visible. Qu'est-ce que vous nous voulons montrer ? Quand nous avons travaillé au projet d'église à la rentrée, entre anciens, Philippe a eu une démarche intéressante. Il a listé un certain nombre d'adjectifs. J'aimerais, je rêve d'une église généreuse, enthousiaste, enthousiasmante, en croissante, accueillante, accueillant les pécheurs, et ainsi de suite. Si vous voulez des détails, vous demanderez à Philippe, mais je ne vais pas tout vous dire ici. Je vous propose de faire la même chose. J'ai des feuilles ici. Comment est-ce que vous rêvez l'Église ? Quels adjectifs voudriez-vous pour décrire notre Église ? J'ai mis des papiers au fond. Je vous invite vraiment à en prendre et à réfléchir pendant l'été. Mais je vous préviens, il y a un piège. C'est que nous sommes l'Église. Et que ce que nous rêvons pour l'Église, c'est nous qui allons le mettre en œuvre. avec l'aide du Seigneur. Mais ce n'est pas le conseil, le responsable, les autres. C'est nous. Ça marche ? Vous acceptez le défi ? Réfléchissez pendant les vacances. Qu'est-ce que je veux montrer ? Qu'est-ce que les gens qui regardent dans l'Église, qu'est-ce que je veux qu'ils voient ? Voilà. Écoute et regarde. Écoute et regarde, c'est la meilleure façon d'éteindre nos doutes. Se concentrer sur ce qui est visible, sur ce qui se voit et ce qui s'entend. Mais il faut regarder les bonnes choses. Si notre ministère produit les fruits annoncés par le Christ, ça nécessite de connaître ce que Jésus a annoncé, de savoir ce qu'il attend de nous. Nous y avons réfléchi cette année. Recherchons régulièrement dans sa parole ce qu'il attend de nous. Et regardons ce qui est fait face à ce que Jésus attend lorsque vient le découragement. Et en même temps, ayons conscience que c'est ça que les autres verront, ce que nous montrons. Et travaillons à ce que le royaume de Dieu soit visible à travers notre action pour la gloire de Dieu. Amen.